Bonsoir à tous. C'est bien de terminer comme ça, avec ce chant-là qui parle de Jésus prend la place de roi, puisque ce soir, le message porte sur deux royaumes bien différents. Alors, si vous voulez, avec moi, on va tourner dans 1er épître de Jean, au chapitre 2. 1er épître de Jean, chapitre 2. Et on va commencer la lecture au verset 15. On va faire une courte prière avant. Notre Dieu et Père, nous voulons ce soir encore reconnaître notre petitesse et puis ta grandeur. Et on veut vraiment remettre cette soirée, ce message en tes mains, que tu diriges et que tu puisses nous parler à chacun de nous. Réconforte nos cœurs, de nous. Seigneur, de pouvoir avoir plus d'amour envers toi, et plus d'amour pour les gens qui ne te connaissent pas. C'est au nom de Jésus qu'on te demande de bénir cette lecture. Amen. Verset 15 jusqu'à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Fondamentalement, deux royaumes. Sur la terre présentement, vous savez, il existe encore des royaumes, on se les fait rappeler, vous savez, avec le mariage du prince William avec Kate. Le Royaume-Uni, ça existe encore. Nous sommes encore les sujets de la reine. La Belgique, c'est un royaume encore. L'Espagne, c'est un royaume. Les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. On parle souvent de la Suède, ici au Québec, comme un exemple, mais c'est un royaume, la Suède. La Norvège aussi. Vous savez, vous connaissez la principauté aussi de Monaco. Il y a le Liechtenstein, je l'ai bien dit, je pense. C'est aussi un duché. Sur le plan spirituel, par contre, la Bible nous enseigne que fondamentalement, il n'existe que deux seuls royaumes. Deux royaumes bien différents et diamétralement opposés. Le royaume de Dieu et le royaume du monde. Le royaume de Dieu, si vous voulez, le royaume dont le roi, c'est le roi de gloire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de ce monde est aussi appelé le royaume des ténèbres. Et ce royaume-là a aussi son petit roi. Celui à qui a été donné pour un temps le règne. On le connaît, son nom c'est Satan, autrefois Lucifer, l'ange déchu, qui a voulu se faire égal à Dieu. Augustin a dit de lui qu'il est le singe de Dieu, ayant sa propre trinité, le diable, la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist et le faux prophète. Dans l'Apocalypse, on retrouve cette fausse trinité. Et Jésus l'a identifié aussi comme le prince de ce monde dans Jean 12, verset 31. Le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2. Il est aussi le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des gens, des incrédules, pour ne pas qu'il voit briller l'évangile de la gloire de Christ. 2 Corinthiens 4, 4. Il a sa propre église, qui est appelée la synagogue de Satan. Apocalypse 2, 9. Il a aussi ses propres ministres. 2 Corinthiens 11, verset 15. Il a son propre évangile, naturellement qui est un faux évangile, un autre évangile. Galates chapitre 1, verset 6. avec sa propre théologie des doctrines de démons. 1 Timothée 4:1. Donc, il enseigne de fausses doctrines. Il utilise et il tord les Écritures. C'est ce petit roi, le séducteur du Jardin d'Éden, dans Genèse, le grand tentateur, qui use de ruses et qui sème le doute. C'est le père du mensonge, le trompeur, meurtrier dès le commencement, Jean chapitre 8, verset 44, à l'origine du péché et de toutes ses conséquences pour l'homme, sur la création aussi, sur l'homme, maladie, haine, guerre, souffrance, tragédie, destruction, mort, la séparation ultimement d'avec Dieu. Jésus dit de lui qu'il est ce voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Autant il est capable de flatter, autant il sait comment nous décourager. Il est le champion pour minimiser le péché. Ah, c'est pas grave quand même que tu ferais ça. C'est pas grave. Mais aussi le champion pour maximiser le péché quand tu le commets. Et ses conséquences. Ah, ça, c'est grave ce que tu viens de faire là. Toi, un enfant de Dieu. Il est l'accusateur des frères. Apocalypse 12, 10. Tu as péché. Ah, c'était pas grave, c'est devenu grave. Et encore plus grave. Humilie-toi devant moi. C'est lui qui sème l'ivraie parmi le blé et qui cherche à enlever la semence de la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un qui ne comprend pas. Matthieu 13, 19. C'est l'ennemi de Christ, mais c'est là aussi le persécuteur de son Église. C'est ce lion qui rugit cherchant à dévorer et à nous dévorer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Maintenant, le royaume de ce monde, c'est quoi? C'est quoi le monde? C'est sûr qu'ici, je ne parle pas de la planète Terre, vous comprendrez. Ce que Dieu a créé pour qu'on y habite, qu'on y fasse temporairement notre demeure, ni non plus du monde de la nature, ni de l'humanité comme telle, que Dieu, en passant, voudrait tant qu'elle l'aime comme lui l'a aimé. Mais c'est plutôt de la civilisation. Ce système du monde que l'homme, de par lui-même, inspiré par ce prince des ténèbres, s'est fabriqué, s'est construit afin d'accomplir tous ses désirs sans Dieu, avec toutes ses écoles de pensée puis de philosophie et de raisonnement. C'est ce système avec ses pensées, ses mauvais principes, fondés donc sur des mauvais principes et des fausses valeurs, sur le mensonge. Ce monde égocentrique, centré sur lui-même, qui marche, selon Paul, chapitre 4, verset 17, selon la vanité de ses pensées. Dans ce monde, la richesse, le pouvoir et le sexe y sont exaltés. Mais il faut savoir que ce monde porte une étiquette maudit. Ce que l'homme appelle progrès ou l'évolution ou toutes sortes d'inventions sans Dieu, en fait, ça ressemble beaucoup plus à la construction de la tour de Babel parce que c'est essentiellement de l'idolâtrie. C'est ni plus ni moins que la recherche par l'homme de sa propre gloire. En fait, quelqu'un a dit que le monde, c'est une belle coquille vide. Puis bien que le monde, en général, se croit sage, sa sagesse est une folie pour Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Et tout ce qu'il offre n'a jamais été et ne sera jamais en mesure de satisfaire le cœur humain. Il y a tout un livre dans la Bible écrit par un homme sage, l'Ecclésiaste, qui nous dépeint justement ce monde comme vanité. Tout est vanité sous le soleil. En revenant au passage tantôt, dans 1 Jean, qu'est-ce que pourrait être l'amour du monde? C'est quoi l'amour du monde? L'amour du monde, je vous soumettrai que c'est aimer tout ce qui nous éloigne de Dieu. C'est aimer les choses temporaires, les choses qui partent. Toute activité où Dieu n'est pas là. C'est vivre sans appel céleste, sans valeur durable, sans valeur éternelle. C'est justement de ne pas reconnaître l'appel de Dieu dans nos vies, en Jésus. Tout se fait sur un plan horizontal. Il n'y a rien sur le plan vertical. Dieu n'est pas dans le portrait. Et sur le plan rationnel, l'une des pensées qui prévaut dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'humanisme. Cette idée qui place l'homme au-dessus de tout et qui dit que, foncièrement, dans sa nature, l'homme est bon, est porté vers le bien, que l'humanité s'améliore toujours. Et ça, c'est l'une des philosophies, des pensées d'un philosophe comme Rousseau. Et pour expliquer les guerres, par exemple, aussi, Karl Marx a écrit ceci, pour expliquer les guerres, les luttes sociales et la méchanceté dans le monde, lui, sa pensée, c'est que la méchanceté de l'homme provient des différences sociales. L'inégalité, la mauvaise répartition des richesses, c'est ça qui cause que l'homme se rébelle. Parce qu'en fin de compte, selon Marx, l'homme est naturellement bon. Ce qui l'a poussé à combattre le capitalisme, c'est cette pensée-là. C'est ça qui a fait naître en lui cette pensée du communiste. Selon lui, dans le capitalisme, l'homme est misérable. Sigmund Freud lui a dit, « Plus on accumule de connaissances, plus nous donnons les moyens d'aller vers la perfection. » Il dit, finalement, « La connaissance de l'homme libère l'homme du mal. » C'était un neurologue, Freud, autrichien. Un Français, un marquis, philosophe français du 18e siècle, un nommé Condorcet, a écrit ceci. « Les résultats des recherches que j'ai effectuées ont démontré par raisonnement et par les faits qu'il n'y a aucune limite au progrès et à l'évolution de l'homme. Indépendant de tout pouvoir qui voudrait l'arrêter, il n'a pas d'autre limite que la durée de son séjour sur la planète sur laquelle la nature l'a placé. Et selon lui, sans aucun doute, l'homme va continuer à progresser quelquefois plus rapidement, d'autres fois mais un peu plus lentement, mais jamais l'homme ne reculera selon lui. Un autre Français, un nommé Émile Coué, qui était un psychologue et un pharmacien du début du 20e siècle, a dit ceci. Jour après jour, dans tous les domaines, nous devenons de plus en plus meilleurs. Lui, c'est l'auteur des méthodes de guérison par autosuggestion. Il est l'un des précurseurs de cette philosophie qui donne du pouvoir à la pensée positive. C'est lui qui a découvert, en tant que pharmacien, l'effet placebo. Connaissez-vous ça? C'est ce produit là, pharmaceutique inactif qui fait une imitation du véritable, mais qui en est un faux, et qui est vendu en remplacement du véritable médicament. Et savez-vous que son enseignement s'est rapidement répandu partout en Europe, c'était très populaire dans les années 20, juste avant la crise. Partout en Europe. Et comme chrétien, il ne faut pas croire qu'on est à l'abri de penser comme ça. Parce qu'au travers de l'histoire, plusieurs chrétiens se sont mis à croire à l'évolution. Et à croire, par exemple, que le royaume de Dieu pourrait s'établir sur la terre par les progrès sociaux et par les progrès économiques. Plusieurs se sont mis à croire à un autre évangile, finalement, à un autre Jésus que celui de la Bible. Et plusieurs ont cru et croient que les gens qui vivaient avant eux, leurs ancêtres, étaient plus ignorants, des ignorants. Ils pensent, nous, on a progressé, on a évolué, on a plus de connaissances, on est plus intelligents. Et savez-vous, ce n'est pas nouveau. C'était de même à toutes les époques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, aussi curieux que ça puisse paraître, on n'est pas capable, vous et moi, d'inventer des nouveaux péchés. tous ces péchés-là, on les retrouve dans la Bible, les péchés. Les pires ont tous été déjà commis. Il n'y a vraiment rien de nouveau. L'homme se croit sage et se place sa confiance en lui-même. Il se place sur un piédestal. C'est ça, l'humanisme. Pourtant, il est écrit dans Ésaïe, chapitre 5, au verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Et pour ce qui est de notre époque, on se croit évoluer plus sage, plus connaissant et plus intelligent que ceux qui nous ont précédés. J'ai déjà apporté ça un mercredi soir, mais George Carlin, qui est un auteur humoriste, qui est décédé dernièrement en 2008, un humoriste américain critique la société, a écrit ceci au sujet de la société américaine. Le paradoxe de notre époque est que nous avons les édifices les plus grands, mais la peau courte. Nous nous fâchons rapidement. Nous avons les autoroutes les plus larges, mais les esprits les plus étroits. Nous dépensons beaucoup pour avoir moins. Nous achetons beaucoup de choses, mais nous en jouissons moins. Nous avons de plus grosses maisons, des plus petites familles. Plus de commodités, mais moins de temps. Nous sommes plus diplômés et moins raisonnables. Nous avons plus de connaissances, mais moins de jugements. Nous sommes de plus grands experts, mais aussi avec les plus gros problèmes. Nous avons plus de médicaments, mais moins de santé. Nous buvons trop, fumons trop, dépensons beaucoup, rions trop peu, conduisons trop vite, nous fâchons trop vite. Nous nous couchons trop tard, nous nous levons trop fatigués. Nous lisons trop peu, écoutons la télévision beaucoup trop et prions très rarement. Nous avons augmenté nos avoirs, mais réduit nos valeurs. Nous parlons trop, nous aimons peu et haïssons beaucoup. Nous apprenons comment gagner notre vie, mais pas comment la vivre. Nous avons ajouté des années à notre vie, mais pas la vie à nos années. Nous sommes allés jusqu'à la lune et nous sommes revenus, mais nous avons de la difficulté à traverser la rue pour rencontrer le nouveau voisin. Nous avons conquis l'espace à l'extérieur, mais pas celui à l'intérieur. Nous avons fait de plus grandes choses, mais pas de meilleures choses. Nous travaillons à dépolluer l'environnement, mais nous continuons à polluer notre âme. Nous avons conquis la tombe sans vaincre nos préjugés. Nous écrivons plus, mais apprenons moins. Nous planifions plus, mais accomplissons moins. Nous avons appris à nous dépêcher, mais pas à attendre. Nous avons fabriqué plus d'ordinateurs pour stocker plus d'informations et produit plus de copies que jamais. Mais nous communiquons de moins en moins les uns avec les autres. Nous sommes à l'époque du fast-food, de la digestion lente, des grosses bédaines et des petites réputations, de la recherche du profit et des relations superficielles. Nous sommes à l'époque des deux revenus, mais plus de divorces. Nous sommes aussi à l'époque des maisons de luxe, mais des foyers brisés. Nous sommes rendus au jour des voyages de courte durée, des couches jetables, de la faible moralité, du compromis, de l'excès de poids, etc. Des pilules qui mènent à tout, de la joie au calme et même jusqu'à la mort. C'est un temps où il y a beaucoup de choses dans la salle de monde, mais plus rien dans le magasin. Vous allez être d'accord avec moi que son constat sur la société n'est pas loin de la vérité. On peut dire qu'en gros, c'est ce que produit ce royaume des ténèbres, avec son roi, son prince, ce monde supposément évolué, civilisé. Entre nous, on sait que la principale raison de cela, c'est que le Seigneur Jésus n'est pas dans le décor, malheureusement. On n'est pas plus fin. Ce qui peut faire la différence, ce qui fait la différence dans nos vies, ça doit être Jésus-Christ. Lui seul. Maintenant, le système de ce monde, c'est quoi? On peut dire que le système de ce monde-là, il se manifeste dans diverses sphères d'activité, différentes facettes. Et le monde, en général, c'est ce système-là, de l'extérieur, c'est attrayant, mais à l'intérieur, c'est corrompu. Prenons par exemple le monde politique. Je ne vous apprendrai rien, en vous disant que, puis malgré que, ça, je sais qu'il y a des gens honnêtes en politique. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont honnêtes en politique, qui font de la politique avec honnêteté et intégrité. Mais il faut reconnaître que dans la politique, dans ce système-là, qui gruge justement tout, et même les gens intègres, il y a beaucoup de corruption. Il y a toutes sortes de magouilles. On voit ça presque journalièrement. Des jeux de coulisses, les enveloppes brunes. On n'a qu'à penser aux commandites encore, puis l'histoire de l'affaire Bellemare l'année passée. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde municipal, dans le monde de la construction, dans le monde syndical. Ensuite, si on regarde le monde des affaires, ce n'est pas plus rose. Ce n'est pas beaucoup mieux parce qu'on sait combien de pratiques frauduleuses, de malversations, de cartels, des gens de qui contrôlent les finances. Encore là, il y a des noms qui nous viennent à l'esprit. On pense aux Lacroix, Norbourg, les Earl Jones de ce monde. Et puis ça, je pense que c'est la pointe de l'iceberg. Si on parle du monde de l'éducation, vous savez que c'est ce monde-là qui a chassé et qui chasse la vérité de son milieu, qui a une intolérance marquée face à la vérité, mais qui tolère n'importe quoi d'autre, toutes sortes d'idées fausses. C'est un monde qui exalte la créature plutôt que le créateur. Mais il faut savoir que ce monde-là est sous l'emprise, justement, de ce prince des ténèbres. Il faut comprendre. Le monde de la culture, artistique, sportif, c'est pas bien mieux. Pas beaucoup plus rose. C'est un monde qui glorifie quoi? L'argent, la richesse, la gloire, l'orgueil de la vie. Glorifie le sexe, l'humour absurde. Maintenant, le monde des médias, de l'information. Puis là, encore là, je ne voudrais pas généraliser. Il y a des gens qui exercent ces métiers-là qui sont honnêtes et intègres. Mais c'est un monde qui n'est pas toujours transparent. C'est un monde souvent on a constaté ça au cours de l'histoire, qui est souvent contrôlé par les pouvoirs autres, politiques, le monde des affaires, le monde de l'éducation, etc. Les intérêts occultes, qui nous rapportent souvent en gros titres les crimes, la violence, les scandales. Et il arrive souvent de rendre le péché populaire, de ridiculiser ce qui est peu. Et on fait des grands plats de bien des choses qui sont des rien en réalité. Parce que, en fait, ce qu'on cherche à faire dans les journaux, entre autres, c'est de vendre des copies, plus de copies, des tonnes de copies. Le monde des médias en général, comme celui de la culture puis le sport, ce que ça fait, ça nous divertit. En fait, ça distrait les gens et ça les empêche ainsi de se préoccuper de ce qui compte réellement, leur destinée éternelle. Pour ce qui est du monde religieux, on peut dire que c'est le pire. C'est le pire. Il vient en bas de la liste, mais en réalité, il devrait être en haut pour ce qui est du pire. Parce qu'en réalité, il mène les gens directement en enfer par des fausses doctrines basées justement sur le mérite de l'homme, l'humanisme, les philosophies qui changent justement au gré du vent et de l'opinion populaire, les systèmes religieux qui sont fabriqués justement par l'homme et qui glorifient justement l'homme, lui laissant croire qu'il est capable d'accéder à Dieu par ses propres efforts, par ses propres mérites, par sa bonté. Il faut se rappeler, en passant, que dans la Bible, c'est ce monde religieux du temps qui a crucifié le Fils de Dieu. C'est le royaume de ce monde religieux qui, à l'époque de Jésus, a dit au sujet de Jésus, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Vous savez, le monde contrôle bien des aspects de la vie, du comportement de l'homme. Et il ne devrait pas affecter l'Église. Mais malheureusement, le monde affecte l'Église. Il faut le reconnaître. Quelqu'un a écrit ceci. Je cherche l'Église et je la trouve dans le monde. Je cherche le monde et je le trouve dans l'Église. Souvenons-nous que Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, 36. Maintenant, si on revient au texte du début qu'on a lu, et vous allez noter avec moi la réponse que nous donne le texte à la question suivante. Que nous offre ce monde? Que nous offre ce royaume du monde? Il est écrit dans 1 Jean 2, 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ici, le mot « convoitise », ça signifie des désirs, un insatiable appétit pour quelque chose, pour quelqu'un, pour quelque chose, etc. Dans ce sens. Donc, selon ce passage-là, le royaume du monde, de ce monde, nous offre premièrement quoi? La convoitise de la chair. Autrement dit, ce que ce monde, ce royaume nous offre, c'est de satisfaire tous nos besoins, les besoins de notre corps. Il y a bien de bonnes choses. Mais on sait que les problèmes viennent lorsqu'on abuse et lorsqu'on se met à chercher à satisfaire la chair, justement, de façon contraire à la volonté de Dieu. C'est là que ça devient notre problème. Quand tout ça devient la raison de vivre. Qu'est-ce qu'il nous offre aussi, deuxièmement, dans le texte? La convoitise des yeux. Vous savez, ce désir insatiable de voir de plus en plus de choses, d'endroits, de personnes, ce désir de nourrir, de satisfaire le côté, je dirais, animal en nous, même si cela pourrait déshonorer Dieu. Les médias, je reviens dessus, l'Internet, les revues, la télévision font tous appel à quoi? À nos yeux et le désir de les satisfaire. Troisième chose, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire être préoccupé par sa propre personne, par ses propres possessions, et rechercher notre plaisir avant tout. Vivre chacun pour soi, pour l'argent, pour le plaisir, un plaisir qui de toute façon n'apporte jamais une entière satisfaction. En fait, c'est vivre pour des choses, en réalité, qui sont bien éphémères. C'est aussi rechercher la popularité, le prestige, la renommée, être reconnu par les autres. Vivre pour tout ça, pour ce qu'on possède, pour l'argent, pour pouvoir s'acheter plein de choses, rien qui peut racheter notre âme. Et le passage nous dit bien que tous ces désirs-là, ces choses-là, d'où ils proviennent, ne viennent pas du Père, ils viennent du monde. Maintenant, qui sont les citoyens de ce royaume du monde? Tous les incroyants, je ne vous surprendrai pas, tous les incroyants, incrédules, peu importe leur classe, autant les bonnes personnes sur le plan moral, de bons voisins, autant que les pires insupportables des brillants. Le monde est mort, quoi, qu'il se croit vivant. Et ce qui unit ces gens-là, c'est qu'ils rejettent Jésus-Christ. Ils marchent aussi selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Tous ces gens sont appelés fils de la rébellion dans la parole de Dieu. Ce sont des enfants de colère, vivant selon la convoitise de leur chair et par nature enfants de colère. Ce que nous étions chrétiens avant de connaître Christ, avant que Christ nous fasse grâce. Aveuglés aux choses de Dieu, marchant par la vue et non par la foi. Parce que, en réalité, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, il faut voir pour croire. Ils aiment les gens, ils aiment ce qui est beau extérieurement, avant tout ce qui est beau intérieurement. Ils aiment le monde et le monde les aime. Jean 15, 19. David dit d'eux qu'ils ont leur portion dans cette vie, dans le psaume 17, verset 14. sont étrangers à la vie de Dieu. Jean du Dard, à cause de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Païens dans la chair, Éphésiens 2:11. Esclaves du péché. En réalité, les gens en général veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent avoir la liberté de faire tout ce qu'ils désirent sans restriction. Et bien qu'ils se croient libres, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. En réalité, ils sont morts, quoique vivants. Et leur fin, sans Christ, c'est la damnation éternelle. Heureusement, bien au-dessus de ce royaume-là, il y a un autre royaume, le royaume de Dieu et de son roi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, en réalité, qui domine sur tout son royaume. Et la parole de Dieu nous dit clairement qu'il est le roi des rois, le créateur de l'univers, visible et invisible. Il soutient l'univers. Et il possède ce qu'aucun autre roi n'a jamais possédé, ni ne possède. L'omniscience, il connaît tout. La toute-puissance, il est partout. Il est le Dieu, comme dirait Michel Penneau, parfait de l'homme et l'homme parfait de Dieu. Il est aussi un juge juste. C'est lui, nous dit 1 Jean chapitre 5, verset 20, c'est lui le Dieu véritable. Il est le sauveur parfait, le Messie, le grand libérateur du péché et de son emprise. Il est parfait en tout point. Il est saint, miséricorde, rempli de grâce et compassion, infini dans tous ses attributs, unique, incomparable dans toute sa personne, au-dessus de tout. Et présentement, il règne. Il a toute autorité. Il est souverain. Il est en plein contrôle de tout. Il est le roi des rois, des rois et le seigneur des seigneurs. Et la Bible nous dit que son règne n'aura pas de fin. Le monde l'a couronné d'épines, mais comme nous dit la parole, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Maintenant, qui sont les citoyens de ce royaume? Tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui ont reconnu justement leur petitesse, leur incapacité, leur insuffisance de gagner la faveur de Dieu. Pensez-vous gagner la faveur de Dieu? Vous ne gagnerez jamais la faveur de Dieu. Dieu s'est donné. Dieu nous a favorisés en Jésus-Christ. Et seulement qu'en lui, nous sommes élus. Tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui se sont détournés de leurs péchés et qui ont trouvé grâce au pied de la croix, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont placé leur confiance en Dieu, en sa parole et en ses promesses. Tous ceux dont la foi est fondée en Christ, Christ étant la pierre angulaire, tous ceux-là sont morts avec Christ et ressuscités avec lui. Nous, comme croyants, nous sommes maintenant quoi? Des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et même si on n'est pas, on est maintenant, notre patrie est au ciel, et qu'on est des gens de la maison de Dieu, et qu'on n'est plus citoyens de ce monde, quand on parle sur le plan spirituel, le monde, ça demeure quand même encore une bonne école pour nous. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit aimé du monde, à ce qu'on on témoigne notre foi. Il ne faut pas s'attendre à ça. Si Christ n'a pas été aimé, on ne sera pas aimé. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Vous comprenez? Jean 17, 11 le mentionne. Puis on doit s'attendre à connaître des problèmes, de la tribulation, comme Jésus l'a dit. Mais cette tribulation-là, comme croyant qu'on peut, les temps difficiles qu'on peut passer, c'est pour la gloire de Dieu. Et il y a quelque chose là-dedans à apprendre, à nous faire grandir. Il y a un but pour la tribulation dans les problèmes de la vie d'un croyant. Il y a des choses à apprendre. On est à contre-courant quand on est croyant dans ce monde. Puis, on devrait savoir, comme croyant, que la vérité ne se trouve pas dans l'opinion populaire. On est en conflit dans ce monde-là. Et nos valeurs, s'ils sont bien placés, sont dans les choses célestes, les invisibles, celles qui durent. C'est le meilleur des investissements pour un croyant. On a un message à proclamer. On a une bonne nouvelle à annoncer. Celle qui dit que l'homme peut être réconcilié, l'homme de ce monde peut être réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Lui qui a pris le châtiment qui donne la paix. On ne doit pas vivre une vie isolée du monde, mais on devrait vivre selon des valeurs différentes. On devrait se distinguer. On devrait vivre dans le monde sans laisser le monde vivre en nous. On ne devrait plus marcher comme les païens qui marchent selon, justement, la vanité de leurs pensées. Et donc, la Bible nous invite à se dépouiller, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Que nous offre le royaume de Dieu maintenant, où Christ est le roi? Que possèdent ceux et celles qui font partie du royaume de Dieu? C'est-à-dire, nous, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes ses enfants. Que nous offre ce royaume? Premièrement, et je reviens, l'amour. L'amour, le véritable amour. Un amour qui se donne. Un amour qui surpasse toute connaissance, nous dit la parole de Dieu. Un amour durable. On parle bien des choses durables, hein, aujourd'hui. L'amour de Dieu est durable. Dieu nous a tant aimés. Et si on l'aime, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Et c'est par Dieu, et uniquement par Dieu, qu'on peut connaître l'amour véritable. C'est quoi l'amour véritable? L'amour durable. Un amour inconditionnel. Un amour qui se donne. Un amour qui est gracieux. Aussi, ce royaume nous offre la joie. La joie d'être sauvé. La joie de celle de notre salut, nous dit Romains chapitre 14, verset 17. La joie, savoir qu'on a une relation maintenant personnelle avec Dieu. Entre autres, ses promesses. Combien ces promesses sont une source de joie pour chacun de nous. La joie de lui appartenir. La paix avec Dieu. Par Jésus-Christ. C'est lui qui nous a réconciliés, je mentionnais tantôt. C'est lui qui est notre paix. Il a réglé le problème du péché. Parce que la justice de Dieu, parce que Dieu est juste, elle a été satisfaite à la croix. Christ a payé pour nous. Une fois pour tout, parfaitement. Lui, le juste pour des injustes. Il a payé de sa vie. Son sang a été versé à la croix afin que nos péchés soient effacés. Et comme ça, nous avons maintenant la paix de cœur, la paix de conscience avec Dieu. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. » Jean 14, 27, il dit, « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Aussi, il y a l'espérance en ses promesses. On n'a plus de doute, hein? Il ne devrait plus y avoir de doute. On a la certitude qu'un jour, on sera avec lui. est allé nous préparer une place. Jean 14, 1. Et c'est pour ça qu'il nous l'a dit. Et c'est pour cela qu'on peut avoir confiance. Et on a cette espérance qu'un jour, on sera avec lui. Grâce à lui. Il nous a donné la parole. Sa parole. Sa parole qui ne change pas. Et Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours, parfaitement, en son temps. On a accès auprès de Dieu aussi, en Jésus-Christ. Par lui, on a les uns et les autres accès en Jésus-Christ auprès du Père. Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Vous savez, c'est un grand privilège de pouvoir aller à tout cœur, toute heure du jour, d'avoir accès à Dieu, de pouvoir faire appel à lui, de l'avoir à nos côtés, de pouvoir se réfugier en lui dans les moments difficiles, de pouvoir lui confier nos tracas, nos soucis, nos inquiétudes sur nos familles, sur nos enfants, sur notre santé, sur la santé de nos proches, puis combien d'autres besoins. À chaque instant, il répond en son temps. C'est sûr, on ne commande pas Dieu, mais on va à ses pieds, on lui demande grâce de nous aider, on demande son aide, qu'il intervienne, qu'il nous réconforte, qu'il nous encourage. C'est un grand privilège de pouvoir prier Dieu, d'avoir qu'il suscite en nous un cœur qui puisse le louer, le bénir, lui rendre grâce. Pour toutes choses, toutes les bontés qu'il nous accorde, peu importe le temps. Nous avons la liberté en Jésus, nous dit la parole de Dieu, de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, 12. Nous avons, bien sûr, le pardon de nos péchés. Le fardeau de nos péchés est parti. C'est Christ qui les a portés, qui l'a porté. Ah, c'est sûr, nous péchons encore tous, mais le péché ne devrait plus être une règle dans notre vie, une règle de conduite. Le péché ne devrait plus régner dans nos vies, parce qu'on a un nouveau maître, Jésus-Christ. Libéré de l'esclavage du péché, ce à quoi je faisais allusion. Que nous offre encore ce royaume? La délivrance des peines éternelles. On ne connaîtra pas les souffrances de l'enfer. Jésus-Christ l'a connu à notre place. Il nous a donné une famille. Comme enfants de Dieu, on a le même Père. On fait partie de la même famille, une famille élargie. Des enfants qui proviennent de toute nation, de toute langue, de toute race. Tous rachetés et issus du même sang, celui de Christ. C'est lui qui nous unit. Et il nous a donné un guide, le Saint-Esprit, qui habite en nous, qui lui qui nous a convaincus au sujet du péché, de la justice et du jugement. C'est lui qui nous enseigne toutes choses sur Christ. C'est lui qui est notre gage, le gage de notre héritage. Il est la garantie de notre héritage. On était aveugles et maintenant on voit. Grâce à Dieu, nous avons pu voir notre misère, reconnaître justement notre petitesse, voir notre péché, puis notre besoin d'être sauvés. L'Esprit de Dieu, c'est le meilleur guide dans nos choix, dans notre vie. Et c'est notre consolateur en temps plus difficile. Et c'est lui, nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, qui seul peut puissamment nous fortifier intérieurement. Les plus belles promesses pour les enfants de Dieu. On a des promesses de bénédiction dans cette vie, et des récompenses dans l'éternité. nous avons le plus grand héritage, la vie éternelle. C'est le plus grand héritage que ne peut pas avoir une personne, la vie éternelle. On fait partie du royaume de Dieu, un royaume éternel. On est héritier du royaume. On est, la Bible nous dit, co-héritier avec Christ. On a donc la vie, la vraie vie, la vie éternelle. On a le royaume, on fait partie du royaume. On va régner avec lui. Ça, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Combien il est gracieux. Il est écrit ça qu'on règnera avec lui. Une qualité de vie qu'on ne peut pas s'imaginer. On a la vie de Christ en nous. Et ça, c'est déjà commencé. Et ça, ça fait partie juste d'une partie de ce que nous avons comme citoyens des cieux, dans le royaume de notre Dieu. Et ça, jamais, jamais le monde ne pourra nous donner ça, puis jamais le monde ne pourra nous l'enlever. Amen. En conclusion, il y a deux royaumes bien différents. Un, le royaume des ténèbres, le royaume sous l'empire du mal, qui mène tous les citoyens à un endroit sans Dieu pour l'éternité, dans la perdition éternelle. L'autre royaume, un royaume de pureté, de sainteté. L'un, le royaume du monde, une coquille vide, superficielle, faux. L'autre, réel, véritable, parfait, éternel. Il est écrit que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Galates chapitre 1, verset 4. On était tellement en danger, et l'homme sans Dieu, aujourd'hui, qui n'a pas encore Jésus-Christ, tellement en danger de périr à cause, justement, du péché et de ce prince, de ce monde, de ses tentations. Tous ceux qui n'ont pas Christ, si quelqu'un ici n'a pas Christ aujourd'hui, encore ce soir, je voudrais te dire que tu es en danger pour l'éternité. Tu es en danger, c'est terrible ce qui pèse sur toi. Et Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut que tu sois sauvé, que tu crois en Jésus-Christ pour être sauvé, que tu crois en son sacrifice à la croix, que tu crois que c'est tes péchés, il les a pris, puis il les a payés une fois pour tout. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime tellement qu'il a fait ça. Il ne peut pas tolérer le péché. Le péché, il fallait qu'il soit jugé. Christ l'a pris, ce péché-là, sur lui à la croix. Il a subi, justement, les châtiments que tu méritais pour que tu aies la paix avec lui, pour que tes péchés soient pardonnés et que tu lui appartiennes. Pendant qu'on peut dire aujourd'hui, tu peux dire aujourd'hui, non? Prends le temps de réfléchir. Puis va au pied de la croix puis demande pardon au Seigneur. Puis crois au Seigneur Jésus. Comme croyant, Dieu nous invite encore à ne pas nous attacher à ce monde parce que facilement on peut s'attacher et on s'attache à ce monde. Facilement on s'attache aux choses visibles, passagères, plutôt qu'aux choses invisibles. Comme chrétien, vivre pour ce monde qui passe, c'est comme vouloir profiter de la vie ou d'une traversée sur un bateau qui est voué à couler. Donald Brown Hart a dit ceci: nous ne devrions pas nous attacher aux choses du monde, puisque c'est un royaume qui un jour sera jugé et condamné par le Seigneur qu'ils ont crucifié. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, nous dit le passage de ce soir. Paul a écrit, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Vous savez, le royaume de ce monde veut que les gens pensent comme ceci. Il y en a un qui va dire, « Moi, pour être heureux, il faut avoir de l'argent. » L'argent, c'est ça qui est le bonheur. Mais pour cette personne, l'argent, c'est sa vie. C'est sûr que mourir, ce serait une perte. L'autre va dire, « Mon rêve, c'est d'avoir une rue qui va porter mon nom. » Un pont qui va porter mon nom, un aréna qui va porter mon nom, ou une statue portant mon nom. Pourtant, pour cette personne, être connu, hein, être populaire, c'est sa vie. Et si ça demeure comme ça, mourir, ce sera une perte pour lui. Un autre va dire, oh, l'important, c'est de profiter au maximum de tous les instants qu'on a, d'avoir du fun pendant qu'on est vivant. Pour cette personne, si ça continue, le plaisir, c'est sa vie. Et mourir, ce serait une perte. Pour nous, ce soir, c'est quoi qui importe le plus? Comme croyants, qu'on puisse dire, comme Paul, Christ est ma vie. Mourir sera un gain. Savez, connaissez-vous ce sigle-là? Juste terminer. C'est un sigle qui est le sigle de l'American Automobile Association. C'est un peu le pendant, puis il existait bien avant, la CAA, qu'on connaît tous. Simplement pour dire ceci. Il y a trois menaces contre le peuple de Dieu. C'est quoi ces menaces-là? Et j'ai pris le sigle à AAA, parce qu'il commence tout par A. C'est-à-dire, les menaces, mais qu'est-ce que ça cause? Pas la menace ne commence pas par A, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a tous les mots, les mots commencent par A. Premièrement, pour le chrétien, il y a le monde. Pourquoi? Parce qu'il est toujours opposé au Père. Tous deux désirent quoi? Avoir notre amour. Deuxièmement, la chair. Toujours opposé à l'esprit. Tous deux désirent diriger quoi? Nos actions. L'autre menace, c'est le diable, toujours opposé au Seigneur Jésus. Tous deux désirent quoi? Notre allégeance. Paul a dit ceci, pour terminer, que ça puisse être aussi une prière aussi en même temps pour chacun de nous, puis rendre grâce à Dieu pour cela. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Prions. Oui, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, justement, pour nous avoir, en Jésus-Christ, délivrés de ce royaume des ténèbres. Puis avoir fait briller en nous l'évangile de la gloire de Christ. Merci pour la révélation de ta parole, pour ton Fils qui est venu donner sa vie pour nous. On sait qu'il est vivant, que c'est lui qui est. C'est en lui que nous nous présentons encore ce soir devant toi. Et nous voulons te donner toute la louange, l'honneur, la gloire qui te revient. Toi qui as bien voulu nous faire grâce. Nous étions dans ce monde, comme un chant le dit, dur et froid. C'est alors que tu t'es manifesté à nous par l'intermédiaire d'un de tes enfants qui nous a annoncé ta parole, qui nous a parlé de Jésus, de sa personne, de ton amour, de son sacrifice, de ton amour pour nous. Oh, merci Seigneur pour ce merveilleux Sauveur qui est Jésus-Christ, ce roi des rois. Celui qui a reçu et qui a le nom, qui est au-dessus de tout. Seigneur, ce monde est attrayant. Nous confessons que nous sommes faibles et que parfois nous tombons, nous sommes loin de toujours agir parfaitement. Et ce soir encore, nous te demandons, Seigneur, pardon, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à marcher pour toi avec ton aide, à regarder aux choses invisibles, aux choses qui durent, aux choses qui célestes, là où notre Seigneur et Sauveur est assis, à ta droite. Lui qui intercède toujours pour nous. Garde-nous, Seigneur, garde nos cœurs et fais-nous grandir. Donne-nous en nous le désir de te connaître encore plus, de t'aimer encore plus, toi qui nous as aimés. Tu as promis de nous garder, Seigneur, dans ta parole, dans ton amour. Et Seigneur, on te remercie pour ça. On te demande et on te prie pour le salut de nos proches, de nos amis, de nous donner à chacun de nous de l'amour pour des gens qui ne te connaissent pas, de nous donner en même temps de la sagesse, des bonnes paroles, d'avoir du discernement et de parler avec douceur, mais avec fidélité et clarté de l'Évangile, afin que des âmes s'ajoutent à ton royaume, que ton peuple en soit heureux et que tu en sois glorifié. Alors, Seigneur, on te demande de bénir chacun de nous alors qu'on va se séparer et qu'en cette semaine, nos pensées, nos paroles et nos affections soient portées envers toi. Au nom de Jésus. Amen.